Cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeaudard, le 4 octobre 1995.
Vous avez dit à la fin de votre dernier cours que lorsque des époux se séparent, c'est la preuve. Je ne dis pas la preuve, c'est le signe. C'est pas tout à fait la même chose. C'est la manifestation qu'il n'y a jamais eu entre eux d'amour spirituel. Pas tout à fait ça. Mais si l'amour spirituel avait grandi, parce qu'il peut y avoir une étincelle d'amour spirituel, un coup de foudre, Jacob en face de Rachel, puisque ça s'est révélé. Il y a eu un coup de foudre. Il ne la connaissait pas. C'est elle. Mais dans le cœur de Jacob, ça n'a cessé de grandir. Vous voyez, l'amour est ce qu'il y a de plus fort et ce qu'il y a de plus fragile. Ça, l'amour spirituel. Et c'est là où il y a une auto-éducation. On nous éduque à la vertu et on s'éduque à l'amour. Parce que personne ne peut nous éduquer à l'amour sauf l'Esprit Saint et Marie. Personne d'autre. C'est pas notre Père selon la chair et le sang qui nous a éduqués à aimer. Notre Mère nous a éduqués à une sensibilité d'amour, mais c'est l'Esprit Saint et Marie qui peuvent seuls éduquer. Et les instruments de l'Esprit Saint et de Marie. Donc, ne prenons pas ça de façon trop rigide, parce que c'est un petit peu durci. Et lorsque les époux se séparent, c'est la preuve qu'il n'y a jamais eu entre eux d'amour spirituel, et qu'ils étaient... est toujours au niveau des passions. Ça, c'est sûr. Donc il y a pu avoir un moment d'amour spirituel, je crois. C'est très possible. Mais on ne l'a pas cultivé. L'amour, c'est toujours un don gratuit de Dieu. Tout amour est un don gratuit de Dieu. L'amour spirituel, naturel et divin. Il faut qu'il progresse et plus on met Et il lui faut du temps pour ça. Alors on a peu de temps pour s'aimer. Alors il faut du temps pour s'aimer. Il faut brûler du temps pour aimer. C'est le propre de l'amour. Et on a peu de temps. Alors petit à petit, on ne s'aime plus. On ne se voit plus. Alors l'amour diminue. Tend à disparaître. Comment comprendre que tout se passe comme si leur décision actuelle avait réellement le pouvoir de déterminer la nature de leur amour, d'il y a 10 ou 20 ans. Voyez, la psychologie nous fait croire que tout est déterminé et qu'on ne peut pas revenir dessus. La philosophie nous rappelle que l'amour spirituel est source de liberté. La passion n'est pas source de liberté. La passion s'impose psychologiquement, nécessairement. Ça, c'est le propre des passionnés. Ils sont déterminés, adonum, ils sont déterminés d'une façon unique. Tandis que dès qu'il y a un amour spirituel, il y a la liberté. Et donc, il y a mille façons de se rattraper. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on est tous responsables de la croissance d'un amour que Dieu a mis dans notre cœur. Ce premier amour nous a été donné gratuitement, mais la croissance de cet amour dépend de nous. Nous en sommes responsables. La haine est seconde, vous voyez donc la primauté de la négation et de la haine sur le bien, ce qui n'est pas vrai. Si la haine est seconde, cela veut-il dire que je suis obligé d'avoir aimé pour haïr? Oui, toujours. On ne hait que ce qu'on a aimé, mais on n'a peut-être pas eu conscience qu'on l'aimait. Oh, c'était très caché. Et presque toujours, c'est une déception. Je crois que la haine naît de déception. Or, on est déçu que quand on a aimé. C'est pour ça qu'il y a un certain stoïcisme de gens. N'aimons. Il ne faut pas aimer. Supprimons notre capacité d'aimer. Par le fait même, on ne sera jamais déçu. Et par le fait même, il n'y aura plus de haine. C'est une manière politique qui est fausse. Parce que si on n'aime pas spirituellement, la passion dominera. Et alors il y aura des haines passionnelles. Et la haine passionnelle vient très très vite. Moi je parle de la haine spirituelle qui naît de l'amour spirituel. La haine passionnelle, c'est quelque chose. Ça s'impose à nous d'une façon véhémente et la haine passionnelle peut tuer. Je crois que la plupart des meurtres viennent de la haine passionnelle. Suis-je obligé, par exemple, d'avoir aimé Marx pour le haïr? Ah non, mais ça c'est tout. Pas de haine vis-à-vis de Marx, vous avez de haine à l'égard de la doctrine. Quand vous voyez que la doctrine détruit l'homme et détruit un pays, vous en avez une horreur. Parce que vous avez aimé votre pays. Et alors vous avez horreur de cet ennemi. Ça ne veut pas dire qu'on l'a aimé. Et donc, vous voyez la différence, la haine à l'égard d'une personne, le rejet à l'égard d'une doctrine où je vois que cette doctrine est mauvaise, tout à fait différent. C'est parce que vous avez aimé votre pays que vous ne pouvez pas supporter que le marxisme le détruise. C'est quelqu'un que je ne connais pas. de mes parents. Je et la haine. Et c'est la même chose là, vous voyez. Vous avez la haine, non pas de la personne, mais de l'acte qu'il a fait. Aimant vos parents, vous ne pouvez pas supporter que vos parents disparaissent. Et disparaissent de cette façon par quelqu'un qui les a tués accidentellement. Alors qu'on aurait pu éviter ça. Alors vous poursuivez l'ennemi. Oui. Si vous avez de la haine contre l'ennemi, c'est pas parce que vous avez aimé l'ennemi. Vous pouvez pas aimer un ennemi. Vous aimez l'homme qui est mon ennemi. C'est différent. C'est pour ça qu'il faut aimer ses ennemis. Vous pouvez pas aimer quelqu'un qui tue et qui vous tue. Ce serait du sadisme. Mais on aime l'homme qui peut se convertir, qui est aimé de Dieu. Je dis que toujours la haine est seconde, ça veut dire que c'est par rapport à la personne, l'amour spirituel. C'est toujours au niveau différent où il y a l'amour. Mais dans l'amour passionnel, il y a toujours un germe de haine. Parce que l'amour passionnel n'est jamais pur et limpide. Mais c'est pour ça qu'il y a toujours une ambivalence. Toujours. Tandis que dans l'amour spirituel, il est pur. Donc il n'y a pas de germe de haine. Mais la haine proviendra justement que celui que j'ai aimé me décevra par ses activités. Il ne répond pas à ce que j'attendais de lui. Alors je le rejette. Donc c'est complexe, hein, fait une analyse de haine, de la haine et de l'amour, pas d'une façon trop systématique. Essayez de comprendre comme c'est complexe. L'amour spirituel, seul et simple. Mais l'amour spirituel en moi n'est jamais séparé de l'amour passionnel. Tout amour spirituel implique un amour passionnel. Et quand on dit je suis très limpide, je sais très bien ce que je fais, j'en ai parfaitement conscience, attention, attention. La passion peut pousser. Alors continuons, cette analyse, je la fais très vite avec vous, mais je crois qu'elle est nécessaire pour comprendre comment l'expérience de l'amour d'amitié est vraiment la source de toute l'éthique humaine fondamentale. Donc, il y a un premier amour, un amour spirituel. Celui qui est mon bien. Mon bien spirituel, c'est la personne humaine. Je suis attiré. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas d'analyse dans ce premier amour. Et on le découvre ordinairement après coup. Il est très fondamental. Vous voyez, c'est un amour de taupe. On passe par en dessous comme ça. Puis on voit tout d'un coup, tiens. Et on peut aimer quelqu'un et on s'en aperçoit quand on est séparé. Tiens, c'est curieux. J'avais pas vu la place qui tenait. Vous voyez, alors c'est un amour dont je peux avoir conscience. Mais je peux très bien aussi pas en avoir tout de suite conscience. Petit à petit, il y a quelque chose qui pousse. Les autres s'en aperçoivent quelquefois avant nous. Il y a des aimants comme ça. On se trouve toujours l'un à côté de l'autre. Tiens, tiens, c'est curieux ça. Ah, mais j'en suis pas conscient. J'ai rien fait pour. Non, c'est cet amour. Ils ont l'ont vu. Ah, mais je suis très limpide. Je sais très très bien. Non, j'aime beaucoup. Oui, c'est sûr. Mais il n'y a rien entre nous. Il y a un amour spirituel. spirituel très très caché, très radical, qui est, je ne dis pas qu'il est instinctif, il est naturel. Je suis fait pour aimer, dans le plus intime de ma nature, de mon âme spirituelle, je suis fait pour aimer. Et alors on a pu étouffer cet amour, ce qui explique comment il peut y avoir des haines. Mais quand quelqu'un vous dit « je me hais », il faut voir d'où ça vient. C'est parce qu'au fond, on a étouffé un premier amour. Il y a toujours un premier amour. Toujours. Donc il est très souterrain ce premier amour. La taupe spirituelle. Et vous voyez, et c'est très curieux, il est comme secret. Je crois qu'on peut dire qu'il est secret ce premier amour. Il a une espèce de pudeur extraordinaire. Il y a quelque chose de très mystérieux de ce premier amour. Ce premier amour, je l'accepte quand j'en ai conscience. Quand j'en ai pas conscience, et évidemment j'accepte. Mais pas librement. Et puis il prend possession. Et il fait son travail. La taupe spirituelle avance, avance. Personne ne l'arrête. Ce premier amour, je peux l'accepter ou le refuser. Donc, affirmation, négation. Et ici, la liberté commence. Je suis libre de l'accepter ou de le refuser, dès que j'ai pris conscience. Tant que je n'ai pas pris conscience de cet amour spirituel, il grandit. Et quelquefois, il grandit secrètement, sans que j'en ai conscience. Ça, on voit ça très fort chez ceux qui ne sont pas très mûrs, vous voyez. Chez des hommes déjà très mûrs, ils s'en apercevront tout de suite. Mais d'autres s'en apercevront pas. On aura beau leur dire, ils diront, mais non, pas du tout. Et puis on s'apercevra. Donc, deuxièmement, si j'accepte cet amour, il va se transformer en intention de vie. C'est le passage du bien à ma fin. C'est un passage très curieux et très intéressant, ça. J'aime cette personne, elle deviendra mon amie. Mais avant qu'elle devienne mon amie, ce bien s'impose à moi comme ma finalité. L'ami, ce bien spirituel, c'est mon tout. C'est lui. Il polarise ma vie. Inconsciemment, quelquefois, et quelquefois très consciemment, je vis pour lui. Je vis pour toi. Quand on dit ça, oui, je t'aime tellement que tout est tourné vers ça. Toutes les activités, c'est l'intention de vie qui pousse à travers cet amour. Mais l'intention de vie, elle est consciente, mais plus ou moins consciente. Quelquefois, ma vie s'organise comme ça autour d'eux. C'est le passage du bien à la fin. C'est très, très curieux, ça. Ça demanderait beaucoup d'explications. Et c'est très intéressant de voir comment le bien que j'aime devient ma fin. Vous voyez, et quand je dis qu'elle devient ma fin, la fin est un principe qui organise tout vitalement, qui ordonne. L'intention de vie ordonne. Vous voyez, tandis que l'amour spirituel, c'est uniquement une union affective. Genelle dans la même casserole. Il y avait du café et du lait. J'avais du... la même couleur. Il n'y a plus de séparation. Tout se tient dans cette sorte d'unité. Alors c'est la fusion. Ça, c'est l'imagination. L'imagination fait la fusion. C'est pas l'intelligence. Parce que l'intelligence sait que pour aimer l'autre, il faut que l'autre reste autre. Donc vous voyez, c'est très important. À côté de l'imagination, l'intelligence, l'imagination et la liberté naît de l'intelligence. Et l'imagination supprime la liberté. L'amour fusionnel supprime toute liberté. Ça s'impose à moi comme une... Vous voyez, quelqu'un qui dit « je ne peux plus vivre sans cette personne ». Ah, voilà la fusion. Mais mon cher ami, tu perds toute ta liberté. Tu vis dans l'imaginaire. Il dit « oh non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'est merveilleux. Ah. » Souvent, on ne peut plus rien dire. C'est la passion, parce que là, avec l'imagination, c'est la passion. C'est les passions. C'est la passion amour qui a tout pris. Et donc l'amour spirituel devient uniquement un amour passionnel qui demandera la fusion et qui demande la fusion. Et là, c'est vraiment l'imagination. Ceci, c'est parce que, voyez, il faut bien voir que nous sommes tout le temps dans la lutte. Quand on parle d'un amour, d'amitié, on l'a acquis dans la lutte. Ce n'est pas donné d'une seule pièce. Non, non, c'est beaucoup trop complexe. L'intention de vie va impliquer l'intention, parce que l'intention de vie, c'est encore la volonté. Hein. L'intention de vie. Il y a un moment où l'intelligence intervient encore ici. C'est le point de vue du conseil. Des moyens. Vous allez comprendre. Cette union affective doit devenir une union effective, réelle. Et pour devenir une union effective, je dois m'unir à ma fin. Je dois la rechercher, cette fin. D'où la recherche des moyens. J'aime cette personne. Je l'aime tellement qu'elle devient vraiment ma fin. Mais c'est toujours dans cet amour. Je veux savoir si cette personne m'aime. Parce que je sais que l'union affective ne pourra se réaliser que si elle-même m'aime. Autrement, je poursuivrai indéfiniment. Dans tous les romans, vous aurez. Et les romans non écrits et vécus au plus intime de mon cœur sont des romans beaucoup plus importants. Et il y a toujours ça. J'aime, je suis attiré. Est-ce qu'il m'aime ? J'en sais rien. J'en sais rien. Ça existe à l'intérieur de novicios. Ça existe à l'intérieur de toute communauté, de toute famille. L'éveil de l'amour est union affective. Et cette union affective doit s'incarner. Union affective. C'est l'incarnation de l'union affective. L'union affective. Et cette union affective réclame le lien avec l'autre qui est ma fin. Parce que la fin est lointaine, ça réclame le lien. Et le lien, c'est que celui qui est ma fin, l'autre, puisse m'aimer comme je l'aime. Or, il faut savoir s'il m'aime. Je ne sais pas. Je suis devant un mur. Oh, il est toujours très gentil. Mais qu'est-ce que je suis pour lui ? Voyez alors, on a besoin de moyens. On se sert des autres, le conseil. personne que j'aime est très liée avec sa mère. Ça peut arriver, ça. Est très liée avec le père maître. Est très liée avec quelqu'un d'autre qui est comme son ami. Alors aussi, mais on va savoir indirectement, par un mode stratégique, dès qu'on aime, on devient très habile pour dépister si vraiment l'autre m'aime. Ou si je suis complètement indifférent à lui. Je me souviens de ça. C'est des choses comme ça qu'il faut qu'on voit dans la vie, mais de tout le temps, quoi. Soyons un peu lucides. C'est cette histoire, un noviciat dominicain, pas de différence hein, dans ce domaine-là, c'est des hommes ou ce sont des femmes, et dans la famille c'est la même chose. Alors ce novice était poursuivi par un autre qui l'aimait follement. Le père maître s'était aperçu de ça, il avait vu. Alors il lui dit, mais vous courez, oui, je ne sais pas s'il m'aime, ça m'agite, je suis énervé. Alors le père maître demande au novice en question, et l'autre dit, mais je l'aime dans la charité du Christ. Je l'aime dans la charité du Christ, je l'aime parce que je dois l'aimer. C'est vrai. Mais évidemment, je vois très bien qu'il me recherche beaucoup. Je n'ai pas tellement envie que cette armoire à glace se jette sur moi et m'étouffe par son imagination. Donc, alors le père maître voit l'autre novice qui lui avait confié ça. Vous savez, rassurez-vous. Bon, il vous aime par charité, mais... Et alors, ce pauvre, vous voyez, ça fait la douche d'eau froide. Hein. Quand on dit comme ça, oui, je vous aime par pure charité. C'est la pure charité. Il faut une plus sensibilité. Non, pas du tout. Alors, il envoie un petit mot. Est-ce que c'est vrai ce que m'a dit le père maître, que vous m'aimez par pure charité? Et autre, il faut bien qu'il dise la vérité. Oui. Alors oui, ça c'est l'indiscrétion du père maître et de mystère. Ici ça n'arrive pas, tu vois. Mais je parlais d'un noviciat où le père maître, je l'ai connu, n'avait aucun sens de ça. C'est vrai, ça arrive, des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que l'amitié, ce que c'est que l'amour d'affectivité passionnelle et spirituelle. Il faut comprendre, l'amour est toujours complexe en nous. Il met longtemps avant d'être vraiment pur et purifié. Et je crois qu'au point de vue purement humain, il n'est jamais totalement purifié. Divinement, il peut. Alors voyez, la recherche des moyens, c'est pour le passage de l'union affective à l'union effective, en vue de m'unir à ma fin. C'est quelque chose de très curieux. Alors là, je cherche la manière, les moyens, la manière de m'approcher de l'ami, la manière de savoir s'il m'aime, si entre nous il peut y avoir un lien fort. C'est évident que ça prend des modalités extrêmement différentes en fonction des milieux. Les moyens sont très dépendants du milieu dans lequel on est. Des milieux plus fermés, serre chaude. Des milieux très ouverts, la spiritualité. sexualité des arbres avant. Où il y a que des tout petits fruits. Dans la serre, il y a des gros fruits. Elle est surchauffée. Faut faire attention. Ça éclate. Et les moyens sont très différents. Et on voit tout de suite, hein, parce que ça, c'est le conseil, c'est de l'ordre de l'intelligence. Hein. C'est l'intelligence. C'est jamais l'imagination. L'imagination croit qu'on est toujours en pays conquis. Puisque je l'aime nécessairement, il m'aime. L'imagination ne peut pas imaginer que si on aime quelqu'un, l'autre ne m'aime pas. C'est absolument impossible, je l'aime tellement. Ça ne veut rien dire du tout. C'est l'intelligence qui donne la lucidité. Autrement, la passion liée à l'imagination me rend aveugle, c'est ce qu'on dit. On dit, l'amour vous rend aveugle. Il vous rend aveugle par la passion. Et alors on projette. Une projection. Et la projection la plus forte, c'est dire, puisque je l'aime, il m'aime. Ah non, c'est pas vrai. Mais c'est comme quand on dit, les amis de mes amis sont mes amis, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Il faut faire toujours grande attention. La conquête de l'ami est toujours personnelle. Toujours, ça peut pas être autrement. Et donc dire, les amis de mes amis sont mes amis, mais non, attention, attention. Vous apercevrez que c'est pas comme ça du tout. Et c'est pour ça qu'il faut faire grande attention quand, au point de vue humain, quand quelqu'un qui est un ami se marie, ne croyez pas que nécessairement son épouse, parce que c'est l'épouse de votre ami, deviendra votre ami. Oh, pas du tout. Elle deviendra d'une jalousie farouche. Parce que vous l'avez aimé avant elle. Et ça, impardonnable. Alors il faut faire attention. Celui qui dit, mais oui, je suis son ami, donc ça doit aller de soi. Mais pas du tout. Et ça, c'est le caractère personnel de l'ami, de l'amour d'amitié. Où il y a un choix personnel. Et c'est pas un autre qui peut choisir. C'est impossible. Et ça, c'est toute la phase du conseil qui doit être lumineuse, consciente, et permettre de voir les vrais liens qui font le passage de l'amour affectif, qui se transforme très vite par l'imagination et la passion. Et puis, les liens véritables. Ensuite, le choix. Le choix. Donc, nouvelle liberté. Et il y a des niveaux de liberté, ça c'est très important. La liberté, c'est pas la liberté. La liberté en soi, oui, c'est comme la blancheur. La liberté en soi, vous la rencontrez qu'un seul moment, quand vous arrivez à New York, la statue de la liberté. Alors c'est la statue de la liberté, c'est la liberté en soi. Autrement, vous voyez des actes libres. Et les actes libres de l'ami, les actes libres de l'artiste, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est ce que Sartre a confondu quand il parle de la liberté. Il parle de la liberté de l'artiste, pas du tout de la liberté de l'ami. C'est très important de voir que, vous voyez, c'est pour ça que c'est très important la distinction entre concret et abstrait. Alors, je sais qu'est-ce que c'est que la liberté, mais non, qu'est-ce que c'est que les actes libres? Il y a un acte libre ici, entre 1 et 2. Il y a un acte libre entre, au numéro 3, le choix. Tout choix. Véritable et libre. Vous choisissez le moyen. Et vous savez très bien qu'il y a deux manières de choisir. Le conseil, il est multiple. Mais c'est le chien de chasse, pas à droite, à gauche. Pour essayer de faire que le gibier sorte et qu'on arrive à trouver le véritable moyen. Tandis que le choix libre, on sait très bien le moyen. Il y a deux manières de choisir. Il y avait réfléchir. Il y a deux manières de choisir. On choisit le moyen qui nous est le plus comme naturel. On choisit le moyen qui est le plus efficace pour atteindre la fin. Quand vous êtes fatigué, vous choisissez le moyen qui vous est le plus comme naturel. Et le moyen qui vous est le plus comme naturel, c'est le bon fauteuil dans lequel vous pouvez vous asseoir. Quand on n'est pas fatigué et qu'on a du courage, on choisit le moyen, même s'il est très difficile, le plus efficace pour atteindre la fin. C'est là la retraite du choix et de l'élection. C'est vrai, c'est extrêmement curieux de voir ça. Et ça, c'est inhérent au choix. Le choix de fait fait qu'on choisit où. Un moyen plus facile, les tempéraments, les gens qui n'ont pas beaucoup de courage. Ah, je choisis ça, oui, c'est bien ça, mais je suis pas capable d'autre chose. Je choisis le moyen le plus proche, le moins efficace. Peu importe, il est plus proche de moi. Et c'est celui-là que je choisis. Au contraire, un homme décidé, une femme décidée, c'est la fin qui compte. Et c'est dans la lumière de la fin qu'elle choisit. Toujours très intéressant de voir ça. Le choix. Le jeune homme riche. Il y a le choix. Vendre tout ce qu'il a. Pas très drôle. Et donner aux pauvres. Encore moins drôle. Et puis, suivre Jésus. Au contraire, celui qui essaie de tout d'un... On peut peut-être essayer de s'arranger. Alors on fera une côte mal taillée. Je vais quand même, je n'abandonne pas la fin. Non, non, Jésus, c'est vous que j'aime avant tout. Mais il y a Sarah, il y a Lot, il y a tout le bétail. On peut tout emporter. Après tout, on peut se sauver collectivement. Avec le plus de choses possible, vous voyez. Ça, on voit très bien ça, si on est un peu lucide quant au choix. Tandis que quand on veut choisir vraiment, très bien, c'est lui et uniquement ça, l'efficacité. Donc c'est très important. Et puis alors, il y a ici un problème très délicat. C'est que dans l'amitié, on choisit l'ami. L'ami, c'est celui qui est choisi. Ah. C'est pas seulement celui qui est aimé, c'est celui qui est choisi. Et pour que l'ami soit choisi, il faut que l'ami me choisisse. La première coopération dans l'ordre de l'amitié, c'est le choix mutuel. Je te choisis comme ami. On ne dit pas si tu me choisis comme ami, mais en réalité, je te choisis comme ami parce que tu m'as choisi comme ami. Est-ce que c'est vrai? Parce que, ou au contraire, je te choisis comme ami. J'espère que tu me choisiras. Parce que quand on choisit l'ami, on choisit la personne. Le choix rejoint le premier amour. Et par la fin, je peux choisir et rejoindre le premier amour. Alors vous voyez, ce qu'il y a de très curieux dans l'amour d'amitié, c'est qu'un ami s'impose comme mon bien. Un ami, c'est ma fin. Et un ami, c'est celui que je choisis. Or, humainement parlant, le choix n'est pas le même acte que l'intention de vie et n'est pas le même acte que l'amour. Mais dans le choix de l'ami, l'intention de vie est présente et l'amour premier spirituel est présent. C'est pour ça que je choisis l'ami, je le choisis vraiment. Mais je le choisis comme mon bien et comme ma fin. Bien au-delà de tous les moyens, l'ami n'est jamais un moyen, sauf l'émission. On sera l'un à côté de l'autre, on se passera nos feuilles. Et alors, l'ami utilitaire. Alors là, il y a vraiment un choix des moyens, puisque je le choisis comme un moyen utilitaire. Je le choisis pour la jouissance, parce qu'il me procure de la jouissance. Mais ce n'est pas un véritable amour, c'est encore pour moi. Le véritable amour de l'amitié, c'est d'aimer l'ami pour lui-même. Alors je l'aime comme ma fin, et je l'aime comme mon bien. Et j'attends pour que cet amour puisse avoir toute sa liberté de savoir que lui aussi m'aime. Mais je ne l'aime pas parce qu'il m'aime. C'est là la question très délicate. On reviendra là-dessus, parce que ça c'est très important. Après le choix, vous aurez l'imperium et l'usage. On reviendra là-dessus.